Un journal présenté ce soir par Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Harvey Weinstein devant ses juges. Le procès du producteur déchu vient de débuter à New York. Il doit répondre de viols et d'agressions sexuelles. Le reportage de Grégory Phillips dans un instant. Mort à l'Amérique, mort à Israël. Une immense foule haineuse a accompagné à Téhéran le cercueil de Qassem Soleimani, le général iranien exécuté par les Américains. À Bagdad, le Parlement irakien réclame le départ des troupes américaines. Dans ce journal, les reportages de nos envoyés spéciaux Siavosh Ghazi et Omar Waman. Deux spécialistes de la sécurité privée ont joué un rôle majeur dans l'évasion de Carlos Ghosn du Japon vers le Liban. Les précisions d'Aurélien Colli à Beyrouth. En France, 33e jour de grève contre la réforme des retraites. Jean-Pierre Farandou, le patron de la SNCF, appelle à la reprise du travail. Le gouvernement, lui, cherche à s'attirer la bienveillance de la CFDT. Dossier dans ce journal avec Anne-Laure Jumet et Pierre Neveu. Harvey Weinstein, très affaibli, est arrivé au tribunal d'État de Manhattan tout à l'heure à New York. L'ancien producteur souffre du dos depuis un accident de voiture en août dernier. Au moins 80 femmes l'accusent d'agression sexuelle, mais le procès ne concerne que deux d'entre elles. L'une des plaignantes affirme que Weinstein l'a violée dans une chambre d'hôtel new-yorkaise en 2013. Devant le tribunal de Manhattan, une quinzaine de femmes ont manifesté leur colère, parmi lesquelles l'une des victimes présumées du producteur, l'actrice Rosanna Arquette. Le reportage de Grégory Phillips.
Harvey Weinstein vient de pénétrer à l'intérieur de ce tribunal du sud de Manhattan, marchant difficilement à l'aide d'un déambulateur, le dos voûté. 20 minutes plus tard, une quinzaine de ses victimes présumées se retrouvent face à ce même tribunal pour manifester. L'actrice Rose McGowan, qui accuse Weinstein de l'avoir violée en 1997, s'adresse directement à l'ancien producteur hollywoodien.
Dear Harvey, no matter what lies you tell yourself,
cher Harvey, peu importe les mensonges que tu te racontes à toi-même, tu as fait ça. Aujourd'hui, la justice examine un super prédateur, toi. Je suis venu ici pour voir ce qui va se passer, pour être aux côtés de ces autres femmes à qui aussi tu as fait du mal, également pour donner une voix à celles qui restent silencieuses, comme je l'ai été si longtemps. Sache une chose, nous sommes libres, nous sommes belles, nous sommes fortes et tu ne nous enlèveras jamais ça.
Devant la justice américaine, Harvey Weinstein devra répondre de 6 chefs d'inculpation pendant les 6 semaines que va durer ce procès. Seules les plaintes de 2 femmes seront examinées. Durant cette première audience ce matin, Weinstein n'a pas dit un seul mot. Si le jury décide qu'il avait bien le comportement d'un prédateur sexuel, il risque la prison à perpétuité.
Grégory Phillips depuis le tribunal d'État de Manhattan à New York. Combien était-il aujourd'hui à Téhéran pour rendre hommage à Qassem Soleimani? Plusieurs centaines de milliers, sans doute, une marée humaine venue accompagner le cercueil de l'ancien général iranien tué par un drone américain jeudi dernier à Bagdad. Une foule qui a crié vengeance, unie par la haine de l'Occident et de ses deux pays emblématiques, les États-Unis et Israël. Le reportage à Téhéran de Siavosh Ghazi.
Dans cette foule immense venue rendre hommage au général Soleimani, beaucoup demandent la vengeance, comme l'affirme Mostafa, un fonctionnaire de 49 ans qui insiste sur le rôle du général dans la lutte contre Daesh.
Aujourd'hui, si on respire ici, c'est grâce au général Soleimani. Sinon, les gens de Daesh auraient coupé la tête des gens sur la place Azadi de Téhéran, comme ils le faisaient en Irak ou en Syrie. J'aurais préféré mourir et ne pas voir ce jour. J'ai honte pour moi-même. Je demande la vengeance, comme l'a demandé l'ayatollah Khamenei. Il faut une vengeance dure.
Pour Fatemeh Einizadeh, une étudiante de 28 ans, venue avec ses deux enfants de 6 et 2 ans, le général était un symbole pour les Iraniens et pour les générations futures.
Je suis venue pour mes deux enfants, pour qu'ils participent à de tels événements. Parce qu'ils devront résister face aux Américains. Et très probablement, c'est leur génération qui détruira Israël. Le général était un symbole pour nous. S'il n'avait pas été là, nous n'aurions pas cette sécurité. Ce qui est important pour nous, c'est sa fidélité au guide suprême.
Beaucoup ne cachent pas leurs larmes ni leur colère. Mais tous demandent une réaction très dure contre les Américains.
Siavosh Ghazi, correspondant de RFI à Téhéran. La réponse de Donald Trump à cette manifestation monstre ne s'est pas fait attendre. L'Iran n'aura jamais d'armes nucléaires, a tweeté aujourd'hui le président américain, alors que Téhéran a décidé de reprendre son programme visant à acquérir à terme la bombe atomique. Direction Bagdad à présent, où le Parlement irakien a voté ce week-end une résolution exigeant le retrait des troupes américaines stationnées en Irak. Et pourtant, avant l'exécution, l'exécution de Soleimani, des milliers d'Irakiens manifestaient contre la tutelle iranienne sur leur pays. Mais chez les députés irakiens, l'heure n'est plus à la remise en cause de cette tutelle. Le reportage à Bagdad de notre envoyé spécial Omar Waman.
Pour les Irakiens, ce dimanche 5 janvier 2020 est à marquer d'une pierre blanche. Mohamed El-Rabban fait partie du bloc El Fatah, un groupe de députés chiites favorables à l'Iran.
Cette décision est très claire. Il n'est pas possible pour les Américains de s'opposer à la volonté du peuple représenté par le Parlement. Si les Américains ne se retirent pas, nous les obligerons à se retirer, même par la force.
La séance parlementaire a été mouvementée et ponctuée de slogans anti-américains, mais en l'absence des partis kurdes alliés des États-Unis. Faleh El-Razali, député de Bassora, dans le sud de l'Irak.
Il y a eu une pression des États-Unis, des menaces américaines sur certaines forces politiques, mais la majorité l'a emporté. Il y a même des chrétiens qui ont voté ce départ, des sunnites également. L'absence de députés kurdes est due à la pression extérieure, mais l'essentiel, c'est que la résolution a été adoptée.
Une résolution non contraignante, mais que le gouvernement irakien peut difficilement ignorer.
Omar Waman, envoyé spécial de Radio France en Irak. Carlos Ghosn sortira de son silence mercredi lors d'une conférence de presse à Beyrouth. L'ex-PDG de Renault-Nissan n'a pas pris la parole publiquement depuis sa fuite au Liban. Il s'est contenté d'un communiqué pour dédouaner sa femme qui n'aurait joué aucun rôle dans son évasion du Japon. Carlos Ghosn affirmait aussi avoir organisé tout seul sa cavale. Rien n'est moins sûr en fait, car deux hommes clairement identifiés semblent avoir joué un rôle clé dans cette évasion, Aurélien Colli.
Michael Taylor, 59 ans, ancien des forces spéciales américaines, reconverti dans la sécurité. Dans les années 80, pendant la guerre civile, il est passé au Liban, où il a entraîné l'une des milices chrétiennes, les forces libanaises. George Zayek, à peine plus jeune, spécialiste lui de la sécurité privée en Irak, en Afghanistan, en Libye ces dernières années. Il a fait ses armes à Beyrouth pendant la guerre civile, dans les rangs des mêmes forces libanaises entraînées par Taylor. Les deux hommes étaient dans le jet en provenance de Dubaï, qui a récupéré Carlos Ghosn le dimanche 29 décembre au soir, à l'aéroport de Kansai, près d'Osaka. Osaka où, selon les médias japonais, l'ancien patron est arrivé, lui, en train, après avoir quitté son domicile de Tokyo, seul, avec un simple chapeau et un masque anti-pollution. À Osaka, Carlos Ghosn aurait rejoint en taxi un hôtel proche de l'aéroport de Kansai, avant de décoller dans la soirée pour Istanbul, puis Beyrouth. Sur les documents de vol de la compagnie turque qui a transporté Carlos Ghosn, falsifiés par un employé qui a depuis été arrêté, Michael Taylor et George Zayek sont les deux seuls passagers. Mais selon le journal Le Monde, il y avait aussi à bord une malle volumineuse qu'il fallait bien attacher, ont confié les pilotes. Une malle qui aurait été commandée à Dubaï et percée de petits trous pour permettre à Carlos Ghosn de respirer. La chaîne japonaise NHK évoque aussi un bagage surdimensionné qui n'a pas pu passer dans l'appareil radioscopique et qui n'a donc pas été contrôlé à l'aéroport de Kansai.
Aurélien Colli, notre correspondant à Beyrouth. En Australie, la surface brûlée par les incendies dans le sud-est du pays approche désormais les 8 millions d'hectares, soit une superficie équivalente à l'Irlande. Cela représente un peu plus de 1% de l'immense territoire australien. Les feux qui ont déjà coûté la vie à 24 personnes. Depuis quelques heures, les pompiers bénéficient d'un léger répit avec la baisse des températures et le retour de la pluie. Répit de courte durée puisque la chaleur doit revenir en fin de semaine sur l'Australie. Notre envoyé spécial Gaël Joly s'est rendu à Cobargo, une localité située près du littoral en Nouvelle-Galles du Sud.
Le père de Michael nous montre sa nouvelle maison, une vieille caravane installée sur un terrain vague en bordure du village. Leur propriété a été décimée, pourtant Michael est resté jusqu'au bout dans les flammes.
Moi j'ai défendu la propriété familiale avec mes parents. On a vu le feu arriver, on a réussi à sauver les chevaux mais j'ai perdu tous mes souvenirs. On a survécu. Mais on a traversé un véritable enfer. J'avais des flammes partout autour de moi. Je ne pouvais plus respirer. Et on est resté là jusqu'à ce que le feu s'éloigne.
Cette nuit-là, Michael a perdu un ami et son fils et tous ses rêves d'avenir. Assise devant sa caravane, Catherine, elle aussi, est encore très marquée par cette nuit en enfer. Elle a dû fuir le brasier en pleine nuit et elle a tout perdu. Le feu a traversé la route. Il a sauté par-dessus. Il est monté en haut de la colline où nous habitons. Un feu gigantesque, tellement puissant qu'on sentait notre peau brûler. Et ce n'est pas quelque chose que vous pouviez combattre. Alors on est parti en voiture. À Corbago, la moitié des maisons sont parties en fumée. Il y a quelques jours, le Premier ministre australien Scott Morrison est venu en personne, sur place, donner son soutien aux sinistrés. Sous les yeux des caméras, la plupart ont refusé de lui serrer la main, critiquant une gestion catastrophique de la crise.
Gaël Joly, notre envoyé spécial en Australie. Pourquoi le terme « droit de l'hommiste » est-il devenu une insulte alors que le nombre de pays membres de l'ONU n'a jamais été aussi important? C'est la question que posera Emmanuel Laurentin à ses invités dans le temps du débat juste après ce journal. En France, la grève contre la réforme des retraites boucle ce soir son 33e jour, un record dans les transports depuis 1986. Le trafic reste très perturbé à la RATP. En revanche, la situation s'améliore à la SNCF où l'on comptait aujourd'hui 80% des TGV en circulation. De là à conclure à l'essoufflement de la grève, il y a un pas que le nouveau PDG de la SNCF aimerait bien franchir. Jean-Pierre Farandou qui a adressé ses vœux aux cheminots pour la nouvelle année. Anne-Laure Jumet, bonsoir.
Bonsoir.
Des vœux en vidéo, Jean-Pierre Farandou appelle à la reprise du travail tout en chiffrant le coût de la grève pour la SNCF.
Oui, le successeur de Guillaume Pépi adresse un message appuyé aux cheminots grévistes. S'il dit les comprendre, il rappelle aussi des concessions faites par le gouvernement. La réforme ne concernera pas 58% des cheminots, dont 3 conducteurs sur 4, dit-il. Et les modalités de calcul des retraites donneront un résultat très proche du régime actuel, assure encore Jean-Pierre Farandou, d'où cet appel lancé pour la nouvelle année.
Je formule le vœu que la grève qui a démarré le 5 décembre dernier, il y a plus d'un mois, s'arrête. Cette grève perturbe lourdement la vie des Français, affecte l'économie de notre pays et abîme notre entreprise. Nous avons perdu près de 600 millions d'euros, sans compter les dédommagements pour les voyageurs de la vie quotidienne et les chargeurs qui vont quitter le ferroviaire pour repasser à la route.
Alors cette vidéo, elle a du mal à passer chez les grévistes. Elle jette de l'huile sur le feu, estime Bruno Poncet, secrétaire fédéral de Sudrail.
On a un nouveau président qui nous disait qu'il lui était cheminot depuis des années, que lui, il allait remettre l'humain au cœur de la machine. Et là, on voit d'un seul coup, il nous parle que de chiffres. Il s'en fout que les cheminots, même ceux qui gagnent 1400 euros, préfèrent être en grève que d'aller travailler parce qu'ils pensent qu'un combat est juste. Cette vidéo, elle est maladroite. En plus d'être maladroite, elle met un peu d'huile sur le feu. Il faudra qu'il se rappelle ce qu'il nous a dit il y a quelques temps. Elles pourront pas changer de discours.
Alors, on le voit donc du côté des transports, pas de pause dans la mobilisation, y compris chez les syndicats réformistes. L'UNSA ferroviaire vient ainsi de mettre fin à la trêve décidée pour les vacances de Noël afin de peser sur les négociations en cours.
Anne-Laure Jumet, merci. Et demain, le trafic SNCF restera compliqué avec 3 TGV sur 4, un Transilien sur 2 et 2 Intercités sur 5 en circulation. À Paris, la RATP annonce un trafic toujours très perturbé, semblable à celui d'aujourd'hui. En clair, presque toutes les lignes du métro fonctionneront au ralenti et seulement aux heures de pointe. Seules les 2 lignes automatiques, la 1 et la 14, rouleront normalement. Alors dans ses vœux aux Français, Emmanuel Macron avait confié à Édouard Philippe le soin de trouver un compromis avec les syndicats réformistes car le président en est convaincu, c'est la CFDT qui détient la clé pour la sortie de crise. Pierre Neveu, bonsoir.
Bonsoir.
Pour l'instant, le patron de la CFDT, Laurent Berger, continue à réclamer l'abandon de l'âge pivot à 64 ans, ce que refuse le gouvernement malgré quelques concessions sectorielles.
Et cette idée de compromis fait son chemin, même s'il reste inflexible sur la question de l'âge pivot à 64 ans. Laurent Berger fait acte de bonne volonté en proposant de séparer la question du financement du reste de la réforme. Banco a dit ce matin à Bruno Le Maire, enthousiaste, parlant même d'une très bonne proposition. Prudente est en revanche la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, qui estime qu'il faut voir là dans le détail ce que sont réellement ses propositions. La CFDT fait un geste, le MEDEF aussi, en déclarant ne plus être arc-bouté sur l'âge pivot, quand le président de l'Assemblée nationale lance, lui, une idée de décote temporaire en cas de départ à la retraite avant 64 ans. On le voit, une marge de manœuvre se dessine pour sortir de la négociation par le haut, en tous les cas avec les syndicats réformistes, UNSA, CFTC, CFDT. Si des concessions sont possibles, rappelons que le Premier ministre a défini, mi-décembre, les contours de sa réforme, avec un âge pivot pour garantir l'équilibre du système, C'est sa ligne rouge. Édouard Philippe qui ouvrira demain matin un nouveau round de négociations techniques au ministère du Travail sur la pénibilité et l'aménagement des fins de carrière alors que débute une nouvelle semaine de mobilisation avec à présent les premières actions devant les ports et dépôts pétroliers.
Pierre Neveu, merci. Cette réforme du gouvernement qui mobilise contre elle plusieurs professions libérales réunies dans le collectif SOS Retraite. Un collectif qui a lancé vendredi une série de grèves glissantes où les professions se relayent dans l'action pour la défense de leurs régimes spéciaux. Aujourd'hui, ce sont les avocats qui étaient appelés à cesser le travail. À Marseille, en ce premier jour de l'année judiciaire, toutes les audiences ont été renvoyées pendant que les robes noires s'étaient se donnaient rendez-vous sur les marches du palais de justice. Le reportage d'Olivier Martoc.
Ce gouvernement qui nous méprise.
Scène un peu surréaliste, 300 à 400 avocats sur les marches du palais de justice, robes noires barrées d'un bout de tissu rouge, symbole de la révolution, pour exprimer leur colère. Le bâtonnier de Marseille, Yann Arnoux Polak, équipé d'un mégaphone qui les harangue et les appelle à descendre dans la rue, avec les autres professions jeudi, du jamais vu à Marseille, même en 68.
Il y a 70 000 avocats en France et en moyenne, chaque avocat verse annuellement 1 400 euros pour les autres régimes. Nous sommes autonomes, ça fonctionne parfaitement. C'est un régime positif pour les avocats et pour les citoyens.
À la différence de la plupart des autres professions, ce n'est pas l'âge du départ à la retraite qui pose problème. Sylvie Campocasso est avocate à Marseille depuis bien longtemps.
Alors vous savez que le doyen des avocats de Marseille a 94 ans, on l'exerce tant qu'on en a envie et tant qu'on a toujours la fougue nécessaire et l'engagement nécessaire.
Faute d'avocat dans les prétoires, toutes les affaires ont donc été renvoyées aujourd'hui à Marseille, ce sera Paris jeudi, avec une grève reconductible et des robes noires plus motivées que jamais.
De mémoire, j'ai rarement vu autant d'avocats présents sur les marches du palais. On se revoit le 9 janvier dans la rue.
Voilà pour ce reportage d'Olivier Martoc à Marseille. Et puis c'est l'une des multiples conséquences de la grève. En Ile-de-France, quelques universités ont reporté leur partiel de décembre, comme Panthéon-Sorbonne où les examens doivent avoir lieu cette semaine. Un certain nombre d'étudiants refusent la tenue de ces partiels aussi longtemps que la grève continuera. C'est le cas à Nanterre, le reportage de Catherine Pétillon.
Pour cette première journée, plusieurs examens ont été interrompus et finalement annulés. C'est le cas du partiel de Myriam, étudiante en master de droit.
Il y a les bloqueurs qui nous ont empêchés de composer. Ils ont tapé sur les tables, ils ont hurlé, etc. Je suis un peu partagée parce que c'est vrai que c'est tout à fait compréhensible. Certaines personnes n'ont pas du tout pu venir à cause des grèves. Seulement, ça nous met vraiment dans le pétrin pour la sélection en master 2 notamment.
Si seul un petit groupe d'étudiants a choisi d'interrompre les examens, l'ensemble des organisations syndicales, sous des formes différentes, déplore la tenue de ces partiels alors que tous les étudiants n'ont pas les moyens de rejoindre le campus. L'UNEF demande des solutions alternatives comme des partiels en ligne. Problème d'équité et de mise en œuvre technique, répond l'université. Ajoutant qu'il est tenu à la fois par le calendrier universitaire et par des modalités de contrôle, son président, Jean-François Balaudet, estime avoir proposé tous les ajustements possibles.
Une tolérance sur les retards. Ensuite, on a fait une proposition qui est, lorsque quelqu'un ne peut pas venir, qu'il soit considéré comme ayant une absence justifiée et non pas injustifiée, ce qui lui permet de conserver le bénéfice de son contrôle continu. Et puis, on propose aussi un hébergement un peu précaire, hein, mais destiné à permettre aux étudiants trop éloignés du campus de dormir sur place.
Manon, étudiante en droit, est venue passer un oral, mais elle espère que son écrit prévu la semaine prochaine n'aura pas lieu.
Moi, j'espère que ce sera bloqué parce que c'est vrai que c'est difficile soi-même de prendre la décision de boycotter un examen. J'espère que les militants, les étudiants vont se rassembler et faire une action collective pour pas qu'on prenne la responsabilité seule sur nos propres notes, nos propres avenirs de soutenir cette mobilisation.
On veut tous le report.
Une assemblée générale d'environ 200 personnes a voté le blocage de l'université de Nanterre à partir de demain.
Le reportage de Catherine Pétillon. La Cour de justice de la République vient de classer sans suite plusieurs plaintes visant le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian. Plusieurs familles de djihadistes françaises détenues en Syrie voulaient poursuivre le ministre pour omission de porter secours et abus d'autorité. Elles réclament le rapatriement en France de leurs proches. La Cour de justice de la République rappelle que Jean-Yves Le Drian n'a pas les moyens d'agir directement en Syrie. L'administration reconnaît sa responsabilité dans le suicide de Christine Renon. Cette directrice d'école de Pantin s'était donné la mort sur son lieu de travail en septembre dernier. Un drame qui avait suscité une très vive émotion au sein de la communauté éducative et bien au-delà. Le ministère de l'Éducation explique que la reconnaissance de responsabilité est, je cite, coutumière dans ce genre de circonstances. Deux jours avant son suicide, Christine Renon avait écrit un courrier où elle mettait en cause directement l'éducation nationale. On termine avec la météo. Demain, le temps restera dominé par la grisaille qui restera tenace toute la journée sur les trois quarts du pays. En revanche, au sud des Pyrénées à la Méditerranée, le soleil finira par s'imposer. Les températures minimales seront comprises entre moins 2 et 7 degrés pour les maximales, comptées de 4 à 17 degrés du nord au sud. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Jean-François Braun.